France Musique.
Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour Saskia.
Vous êtes violoniste, vous êtes né en 1967 à Chambéry, fondateur, directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui vient de se terminer il y a deux jours. Vous êtes à la tête du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, professeur de violon en Suisse. Vous avez fondé un ensemble à cordes, les Lausanne Soloists. Vous présidez le concours Long Thibaut Crespin, vous donnez plus de 120 concerts par an, si je ne dis pas de bêtises Renaud Capuçon. On vous voit partout. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir ?
Tout. Il reste ma mission essentielle et basique, qui est celle de partager la musique avec le plus grand nombre. C'est vrai quand vous
de continuer à le faire du moins.
Oui, bien sûr, mais de continuer à le faire parce que j'ai commencé quand j'avais 4 ans le violon. Non, je crois que c'est une vie de passion. C'est vrai quand on énumère les choses comme ça, on a l'impression qu'on dort pas. Je crois que c'est cette vie de musique est une vie qui prend complètement et voilà. Tout simplement.
Et c'est vrai que si nos éditeurs vous suivent sur les réseaux sociaux, on peut le constater aussi, des photos de concerts, des vidéos, énormément. Et puis toujours, c'est amusant, je l'ai constaté encore hier, toujours ce retour à la montagne au bout de quelques mois, c'est indispensable, cette respiration.
Oui, c'est certainement un retour aux origines. Et puis quand on a la chance de skier, comme on a fait en famille depuis toujours, d'être dans cet environnement sublime de montagne, on a envie d'y retourner. Et au-delà de ça, je pense qu'en vieillissant aussi, on a un besoin de retour aux sources et on a besoin de, voyageant autant, de se retrouver dans des moments de calme et d'introspection un peu.
Qu'est-ce que ça vous apporte justement dans ces moments-là ? Un recul nécessaire, une autre vision de la musique, je ne sais pas ?
C'est juste la vie, en fait. C'est se promener, oublier, comme tout le monde. Je pense qu'on est tous pris par un tel tourbillon de tout, d'infos. Tout va vite, les réseaux sociaux donnent une dimension qui fait peur parfois. Moi, j'ai deux ou trois fois par mois envie de tout arrêter parce que je trouve qu'on est très pollué. Il faut faire extrêmement, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas vivre par procuration, parfois on est en train de faire défiler des photos sur Instagram ou quand on voyage autant, on a beaucoup de temps libre ou un peu perdu
d'attente.
Comme ça, d'attente. Et je me fais la réflexion par moi. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder, quoi? Et donc, je pense qu'on est happé par toutes ces images, par toutes ces informations, heureuses, pas heureuses. Et parfois, on n'a pas envie d'avoir une information heureuse. Parfois, on n'a pas envie, quand on est en train de travailler, de voir quelqu'un qui est aux Bahamas. Enfin, je sais pas, ça fait un effet étrange. Parfois, ça ne me met pas de mauvaise humeur, mais je pense qu'il y a un impact qui va être certainement, ça doit être étudié, tout ça va être testé par des gens très bien, mais voilà, je pense qu'il faut se protéger de tout ça. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'un retour à des choses simples, naturelles, vraies, c'est ça la vraie vie.
un extrait de la cinquième sonate BWV 1018, le Vivace, quatrième mouvement de cette sonate de Jean-Sébastien Bach, interprété par notre invité au violon, Renaud Capuçon, accompagné ici de David Frey au piano. Un extrait de ce disque qui paraît chez Erato en partenariat avec France Musique. Un disque donc de sonate pour piano-violon, la troisième, quatrième, cinquième et sixième sonate que vous avez enregistrée avec ce pianiste David Frey qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps. Et c'est amusant, on parlait aussi de ce retour aux sources, en quelque sorte, vous évoquiez la montagne tout à l'heure, Renaud Capuçon, mais pour David Frey, c'était le retour à la musique de Bach, c'est votre cas aussi ?
Oh ben, on retourne pas à Bach, on n'en part jamais d'une certaine façon, on essaye, enfin pour ma part, j'essaye modestement de le jouer, et c'est un compositeur qui m'impressionne tellement, qui est l'alpha et l'oméga, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est la Bible des compositeurs, Je chemine lentement vers un jour, j'espère, les sonates et partitas, mais que c'est un long, long chemin. Et
c'est ça que j'allais vous demander.
Et ça va prendre encore du temps, parce que donc vous voyez, je joue
pourquoi
les concertos, elle vous
intimide,
je joue les variations Goldberg pour trio, là j'aborde des sonates violon-piano. Bah c'est plus que ça. C'est plus que de l'intimidation. C'est un tel respect, une telle fascination pour cette perfection sonore et ce fait d'être seul en scène, il y a quelque chose qui donne le vertige, en tout cas moi qui me donne le vertige. Et j'ai l'impression qu'on se livre dans ces sonates et partitas à nu, on est à nu comme dans aucune autre pièce au monde. Et c'est pour ça que pour se montrer à nu, il faut être bien préparé.
Et travailler par étapes ici, premier ouais. album partagé avec le pianiste David Frey, comment en êtes-vous venu à cette collaboration ? Ça fait un petit moment que vous connaissez
tous les deux ? Oui, on se connaît depuis assez longtemps, on a joué ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Et on a joué des sonates de Bach, j'avais envie de partager avec lui ce répertoire qu'il connaît très bien. Moi j'aime toujours m'associer à des gens que j'admire pour essayer d'apprendre d'eux. Et j'avais beaucoup aimé sa façon de jouer Bach, donc c'est vraiment dans cette démarche que je lui ai demandé si on pouvait jouer du Bach ensemble. Et puis de quelques concerts qu'on a fait au début sont nés cette collaboration et cette envie d'enregistrer ensemble tout simplement.
Et je pense que ces partitions, ce Bach vous l'avez aussi joué avec de jeunes musiciens, de plus jeunes musiciens que David Frey qui reste très jeune en l'occurrence, c'est pas ça la question. Vous êtes sensible au dialogue des générations, vous Renaud Capuçon, on n'a qu'à regarder les programmations des deux festivals dont vous êtes directeur artistique, je pense au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et aux sommets musicaux de Gstaad. D'où vient, vous êtes aussi professeur de violon, on va le préciser, à la Haute École de Musique de Lausanne, d'où vient ce goût pour la transmission ? Est-ce que c'est quelque chose que vous a transmis Claudio Abbado ?
Oui, mais je pense que lui l'a révélé d'une certaine façon, parce qu'il passait beaucoup de temps avec nous les jeunes, mais je crois que c'est une chose qui est dans la vie. On transmet, on apprend, on a un enfant, on transmet, on lui apprend à lire, à écrire, à compter, on lui apprend à vivre. Et tout ce qu'on a reçu en tant que musicien, je pense que c'est une nécessité absolue. D'abord, c'est un bonheur de pouvoir partager. Moi, j'ai appris moi-même très jeune on parle d'Abbado, mais par exemple avec Gérard Cossé ou avec Aloïs Poche, qui sont des musiciens que j'admire énormément, qui ont peut-être un peu plus que moi, ils ont quoi, 25 ans de plus que moi. J'ai eu la chance de jouer avec eux quand j'étais très jeune. Et j'aime être dans cette direction-là, et puis aussi maintenant dans l'autre direction. Et je passe mon temps à... Je suis un peu entre deux, c'est-à-dire que là, je joue avec des très jeunes comme Guillaume Bellhomme ou d'autres, ou des élèves. Et puis, en même temps, je travaille encore avec des gens beaucoup plus âgés que moi, ou comme Martha Argerich, ou comme Gérard Cossé, ou d'autres. Et j'apprends des deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qui est juste la vie, quoi. On apprend de... pour vous donner un exemple, les heures que je passais avec Jacques Chancel, les 5 dernières années de sa vie, je passais des heures avec lui à parler. J'avais l'impression que c'était la personne la plus jeune que je connaissais. Il était plus moderne que mes potes de mon âge. Et il avait 85 ans.
Alors aujourd'hui, dans l'actualité, Renaud Capuçon, les 30 ans de la disparition du cinéaste italien Sergio Leone. On pense évidemment tout de suite aux bandes originales d'Ennio Morricone que vous avez enregistrées, ou du moins quelques titres, Cinéma Paradiso et Mission, sur votre disque Cinéma. Avez-vous rencontré Ennio Morricone ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai aussi un grand regret, c'est de ne pas avoir rencontré Michel Legrand. Vous savez, cette vie va tellement vite, c'est un peu le reproche que je fais, on fait tellement de choses, on va tellement vite. Et il fallait que j'appelle Michel Legrand, je n'ai pas osé le faire, je ne le connaissais pas. Je me dis, je vais pas prendre mon téléphone et lui dire bonjour. Et j'aurais dû, en fait. Parfois, il faut être un peu... Voilà, et il a disparu entre-temps. Et parfois, il faut, en fait... je pense qu'il faut prendre sur soi et forcer un peu les...
Oser ?
Oui, oser un peu plus. Mais je le fais souvent, mais parfois, on n'imagine pas ça de moi, mais j'ai beaucoup de retenue et de pudeur à faire certaines choses.
Ce disque cinéma, vous l'avez enregistré avec le Brussels Philharmonic, un orchestre que vous retrouvez sur un autre disque qui paraît à nouveau en partenariat avec France Musique, Guillaume Connaisson, un concerto pour violon, Les Horizons Perdus. Je vous propose d'en écouter un extrait. Un extrait du quatrième mouvement de ce concerto pour violon avec un très beau nom, Les Horizons Perdus, à la composition Guillaume Connaisson. Et puis au violon, notre invité Renaud Capuçon aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Brussels Philharmonic et Stéphane Deneuve à la direction. Que raconte ce concerto, Renaud Capuçon?
Il raconte plein de choses. Il est basé sur l'idée d'un film de Capra qui est magnifique. Et puis c'est tout l'univers de Guillaume Connaisson qui s'exprime dans ce concerto. J'adore de travailler avec les compositeurs d'aujourd'hui.
Vous d'ailleurs qui avez commandé ce concerto.
C'est une commande personnelle qui a été financée par Pierre Berger, qui n'aura malheureusement pas entendu l'œuvre avant de partir. Mais c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec un compositeur vivant, parce que vous l'avez en face de vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et vous êtes dans un travail de création, une démarche. Je trouve, j'ai créé la semaine dernière une pièce de Benjamin Attahir, et tous les 6 mois j'apprends une nouvelle partition. Alors bien sûr que c'est des heures de travail, mais à chaque fois cette espèce de responsabilité de création, de rentrer dans une forme d'histoire. Quand je dis une forme d'histoire, c'est pas pour l'ego, mais ça veut dire que tout d'un coup, moi j'ai aucune illusion quand je joue Brahms, Tchaïkovski, Sibelius ou des trios de Schubert. J'ai pas du tout le sentiment que je vais marquer quoi que ce soit. On joue, on est des passeurs, mais quand on crée une œuvre, elle va rester de fait, c'est-à-dire que la partition va rester. C'est dans ce sens-là qu'on rentre dans l'histoire. On participe là à un petit morceau d'histoire. Alors que quand on joue des concertos, j'ai heureusement la modestie de penser qu'on n'entre pas dans l'histoire, mais on participe à un grand mouvement musical. Donc c'est quelque chose de très 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 excitant.
Il y aura d'ailleurs une autre création à votre programme le 26 mai prochain, l'Auditorium de Lyon, création mondiale du concerto pour violon de Jean-Pascal Bintus, Renaud Capuçon.
Ah, ça c'est un projet participatif. créatif. C'est vraiment, c'est un projet assez incroyable que m'a demandé l'Orchestre de Lyon. En fait, ils ont réuni, il y aura 100 violonistes de tout niveau, amateurs, des petits, etc. C'est un orchestre de violon et moi qui vais jouer en soliste avec eux. Donc c'est un concerto pour, qui va être extrêmement, c'est plus une pièce orchestrée, quoi.
On parlait de transmission d'ailleurs à l'heure. Nous Capuçon, le disque cinéma et disque d'or. Ici, on parle de musique d'aujourd'hui. On parlait encore tout à l'heure et je vous ai vu réagir puisque vous étiez déjà arrivé en studio quant à Netflix et ce nouveau contrat qui le lie à Beyoncé pour ses biopics, pour ses documentaires autour de la musique. On se posait la question à quand des grands documentaires autour de la musique classique. Il y en a déjà, mais pas encore sur Netflix.
Oui,
j'entends.
Ça,
c'est un secteur qui vous intéresse.
Oui, moi, je suis plutôt un optimiste. Donc, je me dis que les choses se développent petit à petit. Le classique est toujours un tout petit peu derrière tout ça, parce que ça met un peu plus de temps. Je pense que ça va se développer. Il faut encourager toute forme d'aide. C'est pas d'aide, parce que la musique classique, elle existe d'elle-même. Non, une chose qui m'inquiète, par contre, c'est les droits des artistes et des interprètes dans tout ce qui est streaming.
Il y a eu une avancée dernièrement, ouais, avec le Parlement européen qui adopte ce droit d'auteur numérique.
Oui, mais je pense
cette
qu'il y a vraiment,
du droit
d'auteur. On est très très loin de. Enfin, quand on regarde des chiffres, si on voit les chiffres de ce que touche un artiste sur une track, enfin sur une piste, de ce qui est vendu 0,99 centimes sur une plateforme comme Spotify ou Apple, iTunes, est-ce que vous savez ce que l'artiste touche? Il y a vraiment vraiment un problème. Alors c'est pas pour parler d'argent, mais c'est pour parler de respect de l'artiste. Parce
Absolument.
Qu'à la fin, qui est-ce qui crée? C'est l'artiste. C'est pas la plateforme, c'est pas la maison de disque. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'au plus haut niveau politique, il y ait une décision qui soit prise. On parle beaucoup maintenant, on fait payer les GAFA, très bien, mais qu'on fasse un petit peu payer tous ces grands mastodontes, en tout cas qu'on les fasse respecter un peu plus les artistes.
Et ça, c'est de la responsabilité aussi des interprètes de se positionner et de pousser la réflexion comme vous le faites.
Oui, il faut juste pousser un peu une gueulante, je pense.
On est bien d'accord, voilà, vous êtes... J'utilisais des mots plus polis, le Capuçon. Suite à l'incendie de Notre-Dame, on parlait d'investissement ou de positionnement, en tout cas de l'interprète. Vous avez annoncé vouloir donner une série de concerts afin de collecter de l'argent qui permettra d'aider à la reconstruction du bâtiment. Où en est ce projet, peut-être?
Le projet est absolument en cours. J'ai un mécène et des gens qui vont m'aider à monter ce projet, parce qu'il faut bien sûr que pour remplir ces cathédrales, il faut qu'il y ait un peu de communication, il faut qu'on sache où a lieu le concert, quand il a lieu, donc tout ça est en train de se monter. J'ai fait ça de façon totalement instinctive. Vous savez, j'ai été toujours très inspiré, très impressionné en lisant les biographies de Menuhin, de tous ces gens-là, de Casals, qui ont fait tellement, tellement de choses, des millions de choses de plus que ce qu'on peut faire nous à notre niveau. Ils ont joué pendant les guerres, pour les soldats, ils ont fait des centaines de concerts gratuits. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Et là, tout d'un coup, il y avait cette occasion, donc je vais pas donner 100 concerts, mais je vais en donner à peu près 5 ou 6.
C'est déjà pas mal.
Oui, et ça veut dire donner de son temps, donner de ne pas toucher de cachet, évidemment, ça va sans dire, et toucher une population différente, aller dans des endroits qui ne sont pas des lieux de concert, qui sont des grandes cathédrales, les remplir. Et puis, je pense que c'est aussi au-delà du fait de ce geste d'avoir un peu d'argent pour reconstruire Notre-Dame, mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut maintenant. C'est vraiment un geste citoyen, un geste aussi d'être humain qui dit j'ai envie de participer à quelque chose. Et en tant que musicien, voilà, moi je me fais de cette façon-là, tout simplement.
Et puis continuer à partager la musique avec les spectateurs les plus jeunes et puis d'excellents musiciens ici, comme sur ce disque qui paraît également troisième disque, troisième sortie, dont on va écouter un extrait aux côtés des excellents Lahav Chani et Kian Zoltani, un extrait de ce troisième trio d'Antonin Dvorak. Il y a énormément de dates de concert, hein, Renaud Capuçon, pour vous à venir. Toutes les informations se trouvent sur le site francemusique.fr, sur la page de musique matin, mais je soulèverai tout de même le concert de demain soir dans le cadre du Festival Musique à Deauville, festival où France Musique est partenaire. Merci beaucoup Renaud Capuçon.
Merci.
Et puis à très bientôt.
À bientôt. Thank you.
quelques mesures de ce final. Quatrième mouvement du troisième trio d'Anthony Dvorak, interprété par Lav Shani, Ken Zoltani et celui qui était notre invité ce matin, Renaud Capuçon.
À réécouter sur francemusique.fr.